Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Bienvenue encore à tous à la Maison du Bâtisseur. J'ai envie de dire que c'est le lieu où Jésus-Christ est au centre. Le lieu où Jésus-Christ est au centre, où tout est fait sur une base très importante qui est l'amour. Et sans amour, rien n'est possible. On peut avoir tout ce qu'on veut. La Bible dit qu'on peut avoir, on peut être compétent, on peut être talentueux, on peut avoir la foi qui déplace les montagnes, on peut être l'homme le plus important sur la... Si on n'a pas l'amour, alors nous ne sommes rien. Et je rends gloire à Dieu de ce que l'amour soit toujours la base de tout. Et je prie que demain, même quand l'Église va grandir, même quand l'Église va augmenter, que l'on se souvienne toujours de ces choses, ces petites choses essentielles et importantes. L'Église, c'est une famille. Amen. L'Église, c'est une famille. Et quand on va à l'Église, on va dans une famille. Il y a l'église avec un grand E et il y a l'église avec un petit E qu'on appelle l'église locale. Tout enfant de Dieu doit avoir une famille locale. Tout enfant de Dieu doit avoir une église locale. C'est très important. Et l'église locale occupe une place très importante dans la vie du croyant. Tout croyant, toute personne qui est en Christ, qui n'a pas d'église, est un croyant en danger. C'est un croyant en danger. Parce que c'est quelqu'un qui est à la merci des va-et-vient de tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui est à la merci du diable. C'est quelqu'un qui est à la merci du monde. Voilà pourquoi, en général, la plupart du temps, quand vous voyez des enfants de Dieu qui n'ont pas d'église, en général, vous ne vous étonnez pas de voir qu'ils ont rétrogradé, en général. Parce que, tout simplement, l'église locale n'a plus sa place. Et quand on vient à l'église, on ne vient pas par religion. Bien entendu, on vient pour écouter la parole, ou passer du temps dans la présence de Dieu, etc., etc. Mais la Bible dit que le faire aiguise le faire, le fait juste d'être ensemble. Il y a des fois, tu es tellement découragé, tu es tellement déprimé, tu as des problèmes, tu es dos au mur, tu ne sais même pas comment faire pour sortir de cette situation, tu n'as aucune solution, tu n'as même pas la force de prier, mais le simple fait de venir ici et d'être avec les autres, de voir comment les autres persévèrent, de voir comment les autres te tiennent la main, te disent « Allez, n'abandonne pas, on y va », etc. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. C'est très important. C'est pour cela que toute personne qui n'a pas une église locale, il faut toujours lui dire « Va à l'église. » Va à l'église. Si Dieu a créé l'église, c'est pas pour rien. Si Dieu a créé l'église, c'est pour un but bien précis. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi « À la conquête des promesses » ? Ah, je pense que cette parole, je vous assure, ça fait quelque chose. Parce que Dieu a des promesses pour toi. Dieu a fait des promesses pour toi. Dieu a fait des promesses pour toi comme si tu es père ou mère, comme tu as déclaré des paroles sur ton enfant. Tout enfant, lorsqu'il vient au monde, les parents qui ont l'habitude de prier ont souvent tendance à prendre l'enfant dans leurs bras et à prononcer des paroles sur cet enfant. Éphésiens chapitre 1 au verset 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis béni?
Je suis béni.
Oui, tu es béni. Et tu n'as pas besoin d'aller d'église en église ou de pasteur en pasteur pour qu'on te dise que tu es béni. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est quelqu'un qui est béni. Béni, on a dit, et je le répète, j'aime souvent répéter ces passages-là parce que je tiens à ce que ce soit ancré dans notre esprit, parce que quand on regarde la plupart des enfants de Dieu, beaucoup ne connaissent pas leur identité en Christ. Et c'est pour cela que beaucoup ont des problèmes. Et quand la Bible dit ici que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, le mot « béni » ici, on avait dit que c'était un mot grec que l'on prononce « eulogéo », d'où est sorti le mot « éloge » en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait des éloges à ton sujet le jour où tu es venu au monde. Quel monde? Le monde spirituel. Chacun d'entre nous, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes revenus à la vie, la Bible dit. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc ça veut dire quoi? Que le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, tu es venu au monde comme un bébé. Et c'est pour cela que comme un bébé dans le naturel qui vient au monde a besoin de parents pour lui tenir la main, doit apprendre à marcher, on doit lui donner à manger, etc. Eh bien, Dieu fait pareil. Dieu fait pareil quand tu viens au monde, il te prend par la main et il t'accompagne et il met à côté de toi des personnes qui vont t'aider à grandir et à croître. Mais quand tu es venu au monde, Dieu a prononcé des paroles sur toi. Et ces paroles, la Bible les appelle des promesses. La Bible les appelle des promesses. Une promesse, c'est une parole qui est appelée à se réaliser. Une promesse, c'est un fait qui est appelé à se concrétiser dans ta vie, mais que tu n'expérimentes pas encore. Il faut que la porte s'ouvre, il faut qu'il y ait des choses que tu fasses, ou bien il faut qu'il y ait des choses qui surviennent dans ta vie pour que tu expérimentes certaines promesses. Et ces promesses, juste rapidement pour récapituler, ces promesses, Dieu les a, comment dire, synthétisées ou encore résumées dans un petit livre que tu aimes souvent laisser sous ton chevet et que tu n'aimes pas lire, qu'on appelle la Bible. Ce petit livre n'est pas un livre comme les autres. Ce petit livre, appelé la Bible, est ce que j'aime appeler est la constitution du royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 5, il a dit, ne cherchez ni à boire, ni à manger, ni comment vous allez vous vêtir, etc. Jésus-Christ dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez quoi? Premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles choses? Eh bien, toutes ces choses qu'il venait de citer, manger, boire, s'habiller, etc. Toutes ces choses te seront données. Mais toi, tu dois chercher premièrement le royaume. Le royaume, nous avons dit qu'on ne peut l'expérimenter que par une seule personne appelée le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie et qui te permet d'expérimenter le royaume. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, te donne la sagesse, la connaissance, te permet de comprendre les clés du royaume et d'expérimenter le royaume. Amen. C'est le Saint-Esprit. La justice de Dieu, nous avons dit au travers d'un autre enseignement que c'est simplement les principes, les clés qui nous permettent d'expérimenter les bienfaits du royaume. Mais les promesses, tout ce qui te concerne, tout ce qui te concerne en tant que citoyen du royaume sont contenus dans un livre qu'on appelle la Bible, la Constitution du royaume. Il y a un vieil adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu roules avec ta voiture et que tu brûles un feu rouge et que le policier t'arrête, tu dis, monsieur le policier, je ne savais pas. Le policier dit, monsieur, la loi dit que vous ne devez pas brûler le feu. La loi dit que tu ne dois pas voler, que tu ne dois pas faire ceci et cela. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont pris un jour le temps d'aller prendre la constitution du Gabon et d'aller lire leurs droits et privilèges en tant que citoyen gabonais. En général, la plupart des Gabonais ne le font pas. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais quand tu as un problème avec un huissier de justice ou quand tu as un problème avec la justice, en général, tu vas aller chercher quelqu'un qu'on appelle un avocat. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise ce livre-là de la loi, ce livre juridique. Et c'est cette personne-là qui va te défendre devant le juge, qui va défendre quoi? Qui va défendre tes droits. Amen. Qui va défendre tes droits. Et c'est pour cela que la Bible appelle Jésus-Christ et le Saint-Esprit l'avocat. Parce que c'est lui qui se tient devant le trône de justice et qui défend tes droits. Mais toi, tu es censé toutefois connaître quand même tes droits. Et toute personne qui est en Christ, dans le royaume, tout enfant de Dieu doit connaître ses droits. ses droits et privilèges. Si tu es un citoyen qui ne connaît pas ses droits et privilèges, tu es en danger. Rappelez-vous que quand Jésus-Christ était dans le désert et que Satan est venu le tenter, il n'a pas commencé à prier en langue. Il n'a pas commencé à dire plein de paroles au hasard. Quand Satan l'a tenté, Jésus-Christ répondait comment? Jésus-Christ répondait toujours, « Il est écrit dans la loi que tu ne tenteras point ton Dieu. Il est écrit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il est écrit, etc., etc. » Et quand tu te tiens dans la prière, quand tu te tiens devant le Seigneur, c'est comme ça qu'il faut prier. Il faut toujours te baser sur la loi ou encore sur l'alliance. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'alliance? L'alliance. La Bible que tu as tendance à laisser dans ton tiroir est une alliance. Dieu ne travaille pas avec les hommes sans alliance. Dieu travaille toujours sur la base d'une alliance. Regardez la Bible dans l'Ancien Testament. Chaque fois que Dieu voulait travailler avec un homme, il établissait toujours une alliance avec cet homme. La première alliance dans la Bible était l'alliance avec Adam. Adam a violé cette alliance. Dieu s'est cherché un autre homme pour pouvoir établir une autre alliance. Il s'est trouvé Noé. Il détruisit la terre. Il fit une alliance avec Noé pour reproduire l'humanité. Et ainsi de suite. Après, il fit une alliance avec un homme qu'on appela Abraham. Il s'appelait au début Abraham et après il fait une alliance avec cet homme-là et il l'appelle Abraham. Sa femme s'appelait Sarah et Sarai et il met le H de Yahweh et l'appelle maintenant Sarah. Toujours une alliance. Il se lie toujours avec un homme. Après Abraham, il fit une autre alliance avec un homme appelé Moïse pour faire tout ce qu'il voulait faire sur la terre. Et après Moïse, Dieu fait une autre alliance avec un homme qu'on appelle David. Et après David, Dieu fait une autre alliance au travers d'une personne appelée Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous tous aujourd'hui, nous avons une alliance avec en Jésus-Christ. Toute personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur rentre dans cette alliance-là. Rentre dans cette alliance, est en alliance. Et cette alliance, qu'est-ce que c'est? Une alliance, c'est bien plus qu'un contrat. Une alliance, c'est quelque chose qui nous lie à perpétuité, pour toujours, pour l'éternité avec la personne. Et personne en dehors de l'alliance ne peut briser cette alliance-là. Il n'y a que les bénéficiaires de l'alliance ou l'initiateur de l'alliance qui peut briser cette alliance-là. C'est-à-dire Dieu lui-même ou toi-même. Ou toi-même. Donc, il n'y a que toi qui peux, comment dire, briser l'alliance que Dieu a avec toi. Comment? Eh bien, en péchant, en laissant entrer des choses que Dieu n'a pas demandées, etc. Et t'attirer des problèmes dans ta vie. Mais Dieu lui-même, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a dit « Je ne briserai jamais mon alliance. » Dieu a fait une chose extraordinaire, c'est que l'alliance, c'est-à-dire la parole qu'il a prononcée sur lui et sur toi, il l'a mis au-dessus de sa tête. Il a dit que même moi-même, je ne peux pas briser cette parole-là. Et cette alliance-là, nous l'avons en Christ. Et dans cette alliance-là, que Dieu a pris le temps de rédiger dans un petit livre qu'on appelle la Bible, c'est pour cela que bien que des personnes aient voulu détruire la Bible pendant des siècles et des siècles, on a voulu la brûler, on a voulu faire ceci et cela, Dieu a toujours trouvé un homme qui pour garder cette alliance-là. Un jour, je regardais un film qui s'appelle Le Livre d'Élie avec Denzel Washington. Qui a déjà vu ce film-là? Un film très très bon, je vous encourage à le voir. Un film avec Denzel Washington. Pendant tout le film, on voit un homme qui vit dans un monde où tout est détruit. Tout est détruit, il n'y a plus rien sur la terre, les hommes sont méchants par-dessus tout. Mais lui, cet homme-là, ce qui est bizarre, c'est qu'il poursuit un chemin. Il va quelque part, mais on ne sait pas où il va pendant tout le film. Et il y a des hommes qui le pourchassent et qui veulent le tuer. Mais lui, il se défend. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se rend compte que ce que les hommes veulent récupérer avec lui, c'est un livre qu'il a avec lui. Et il révèle à la fin du film que ce livre, c'est la Bible. Et que toutes les Bibles sur la terre ont été détruites et que lui, il est un prophète et qu'il a reçu une mission un jour d'aller à un endroit pour protéger ce livre-là. Et ce livre-là, pourquoi Dieu tient toujours à ce que ce livre reste en vie? Parce que tout simplement, Dieu sait que ce sont nos droits et nos droits et privilèges qui sont contenus là-dedans. Et c'est pour cela que Dieu dit à Josué, pour entrer dans notre message d'aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu dit à Josué, dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire de l'Alliance, ce livre juridique-là, qu'il ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est l'un des seuls endroits dans la Bible où le mot succès apparaît. C'est alors que tu auras du succès. La version Semeur dit, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi Dieu utilise le mot réussir? C'est alors que tu réussiras. Eh bien, c'est simple. C'est parce que nous tous, dans la vie, on veut réussir. Nous tous, on veut réussir. Nous tous, on veut être épanoui. Nous tous, on a besoin d'argent. Nous tous, on veut être heureux dans notre foyer. Nous tous, on veut avoir des percées financières. Nous tous, on veut réussir au niveau professionnel. Nous tous, on veut réaliser nos rêves. Qui veut pas être heureux sur la terre? Qui a dit qu'en tant que chrétien, il faut être malheureux? Jamais. Jamais. C'est justement parce que je suis devenu chrétien que je suis censé être plus heureux qu'avant. Mais malheureusement, la plupart des enfants de Dieu qu'on voit autour de nous sont plus malheureux dans le Seigneur que quand ils étaient hors du Seigneur. Est-ce que c'est faux? Oui. Or, moi, je parle énormément avec les chrétiens, j'observe énormément autour de moi et je me rends compte que la plupart des enfants de Dieu non seulement ne donnent pas envie aux non-croyants de venir dans l'église, et eux-mêmes ne sont pas heureux. Mais pourquoi ils ne sont pas heureux? C'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de leurs droits et privilèges. Ils sont ignorants de ce qui leur revient de droit. Ils sont ignorants de la parole. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas comment utiliser les clés. Lorsque Pierre a dit à Jésus que tu es le Messie, celui qui doit venir, Jésus-Christ a prononcé une parole très forte. Il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Donc, chacun d'entre nous, nous avons les clés. Et j'ai dit ici une fois que ça nous est déjà tous arrivé à la maison de trouver un gros trousseau de clés. Tu trouves un trousseau de clés ou tu trouves des clés que tu n'as pas vu depuis très longtemps, et puis tu es là, mais tu sais toutes les serrures dans la maison, mais tu ne sais pas quelle est la porte que ces clés ouvrent. Mais tu sais juste que cette clé t'appartient. Mais tu ne sais pas quelle porte elle ouvre. Ça vous est jamais arrivé, ça, d'avoir des clés comme ça? Eh bien, c'est pareil. Quand le Seigneur te donne les clés, il te donne les clés. Tu en as la possession. Maintenant, c'est à toi de trouver quelle porte elle ouvre. C'est maintenant toi qui dois chercher. Et la Bible, quand on la lit, et c'est pour cela que Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. Parce que tout simplement, dans ce livre sont contenues les clés qui vont faire ton bonheur. Tu veux te marier? Ok. Eh bien, le mariage, la réussite du mariage, il faut des clés. Il y a des clés pour avoir un mariage épanoui. Des clés telles que l'amour, qu'on appelle dans la Bible, dans le livre de Jacques, la loi royale, la clé royale. Ou encore des clés telles que la patience. Ou encore des clés telles que la fidélité. Ou encore des clés telles que la générosité, etc., etc. Tu veux réussir au niveau des affaires? On a fait un séminaire ici au mois de novembre où on a parlé de plusieurs clés pour pouvoir bâtir une entreprise prospère avec le Seigneur. Tu veux réussir au niveau professionnel? Tu veux réussir quel que soit le domaine? Eh bien, trouve les clés. Et les clés, elles sont où? Elles sont contenues dans l'alliance. Amen. On va avancer. Et cette alliance, ce livre de la loi, cette Bible, dans laquelle sont contenues tes promesses. Dieu dit que tu ne dois point t'en écarter. La Bible nous a montré au travers du livre de Josué que le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, s'apprêtait à aller en Canaan, à la terre promise. N'oublions pas que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible est toujours en train de nous montrer l'ombre de ce que nous sommes censés vivre en Christ. D'accord? Donc, quand on lit des histoires dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ces histoires nous montrent en fait des choses qui nous concernent aujourd'hui. Et c'est pour cela que la parole de Dieu se lit toujours avec l'œil du Saint-Esprit. Et quand tu la lis avec l'œil du Saint-Esprit, il te montre des choses que tu peux appliquer toi-même à ta propre vie. Et au travers du livre de Josué, Dieu leur a demandé de traverser le Jourdain pour aller à Canaan. Et nous avons dit, je rappelle rapidement, que le Jourdain symbolisait un baptême par lequel le peuple devait passer pour pouvoir rentrer en Canaan. Et nous aussi, Dieu nous amène à passer par ce baptême-là, à entrer dans une intimité d'abord avec le Saint-Esprit pour pouvoir ensuite aller se battre dans la vie. Le Saint-Esprit, nous avons dit que l'expérience du Jourdain symbolisait une intimité que Dieu voulait avoir avec chacun de ses enfants. La Bible, quand on regarde les batailles que le peuple juif a menées en Canaan, la Bible nous relate toujours les dégâts que les Juifs faisaient chez les autres. Mais tant que le peuple restait dans l'intimité avec Dieu et ne péchait pas, la Bible ne nous montre pas de décès du côté des Juifs. Ils revenaient tous toujours indemnes. Parce que tout simplement, Dieu les protégeait et Dieu prenait soin d'eux. Mais ça, c'était grâce à quoi? Ça, c'était parce que, tout simplement, en passant par le Jourdain, le peuple, le peuple et Josué avaient posé des actes qui leur avaient, d'un point de vue prophétique, assuré la victoire en Canaan. Dieu leur avait dit, vous passerez par le Jourdain. Et quand vous passez par le Jourdain, il dit à Josué, tu vas prendre 12 pierres. Tu vas prendre 12 pierres. Ce sont ces 12 pierres-là dont nous avons parlé durant les 3 dernières semaines. Et Dieu nous montrait au travers de ce passage-là, au travers de ces 12 pierres-là, que ces 12 pierres-là représentaient 12 choses que chacun des enfants de Dieu devait recevoir pour pouvoir réussir en Canaan. Et ces 12 pierres-là, nous en avons parlé. Nous avons dit que la première pierre, dans le cadre de la consécration, dans le cadre de l'intimité qu'ils allaient avoir avec le Seigneur, la première pierre était la connaissance de Dieu. La deuxième était l'onction. Le O, le N, c'était la nature divine. Le S, la sagesse. Le E, l'excellence. Le C, la créativité. Le R, les relations ou encore les connexions divines. Le A, c'était l'autorité. Le T, le temps. Le I, l'intégrité. Le O, l'obéissance. Et le N, le nom ou encore la renommée. Ces 12 choses-là étaient 12 choses que Dieu nous a enseignées et que Dieu s'engageait au travers de l'Alliance à nous donner. Ou encore à nous équiper, à nous révéler pour pouvoir réussir en cette nouvelle saison, la saison de la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire amen? La consécration. Et la consécration était la première étape. Parce que quand on prend le livre de Josué, au moment où le peuple s'apprête à rentrer, le peuple reçoit des instructions claires de Dieu. Et la première instruction très importante que Dieu dit à Josué de donner au peuple, c'est « vous devez vous consacrer ». Et tu ne peux pas réussir avec le Seigneur sans te consacrer. Et on a insisté là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Le deuxième ordre que Dieu donne au peuple se trouve dans le livre de Josué au chapitre 5 au verset 2. Josué chapitre 5 au verset 2, il dit ceci. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot, la colline de la circoncision. Dans la Bible de la version français courant, le même passage nous dit ceci. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis cette nouvelle génération d'Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites. Cela se passa dans l'endroit appelé la colline de la circoncision ou encore Aralot. La circoncision est la deuxième étape, la deuxième instruction que Dieu donne au peuple. Un, vous devez vous consacrer si vous voulez réussir à Canaan. Vous devez vous consacrer si vous voulez réussir cette année. Tu veux réussir cette année? Consacre-toi. Deux, circoncis-toi. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? Quand Dieu donne une recommandation, alors qu'on s'apprête à entrer à une nouvelle dimension dans notre vie, elle a toujours une signification importante. Même lorsqu'on ne comprend pas. Et souvent, quand on ne comprend pas, il faut aller chercher. J'ai dit qu'il y avait 4 recommandations que Dieu a données. La première, c'est la consécration. Et la deuxième, c'est la circoncision qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire avec moi la circoncision? La victoire est certaine si tu fais ce que Dieu demande. Et si Dieu demande de te circoncire, c'est pour une raison bien précise. Pourquoi Dieu demande au peuple de se circoncire une seconde fois? Pourquoi Dieu demande au peuple de se circoncire une seconde fois? Parce que tout simplement, il y avait déjà eu une première étape de la circoncision. Mais sauf que là, Dieu précise bien cette nouvelle génération. En fait, la génération de Josué n'avait pas connu la circoncision. La génération de Moïse avait connu la circoncision. Pas la nouvelle génération qui s'apprêtait à aller combattre. D'où vient la circoncision, rapidement? Le mot circoncire ici, dans ce passage-là, quand il dit « circoncis le peuple », vient d'un mot hébreu que l'on prononce « moul », M-U-L, qui veut simplement dire « ôter le prépuce » ou encore « couper autour » ou encore « retirer quelque chose »,« faire une ablation d'un voile impur qui souille le temple ». Moul, qui veut dire simplement « retirer quelque chose qui est impur ». Et la première fois que Dieu parle de circoncision, qui est le symbole de l'alliance qu'il établit avec son peuple, c'est lorsque il fait une alliance avec Abraham. Et quand Dieu fait une alliance avec Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 17, Il est écrit ceci, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, c'est-à-dire toi et moi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi, c'est-à-dire toi et moi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » Toi et tes descendants après toi, c'est-à-dire toi et moi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision, est-ce qu'on peut dire avec moi la circoncision? La circoncision est la marque de l'appartenance à Dieu par l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à la sortie d'Égypte, lorsque le peuple est sorti d'Égypte? L'Égypte, dans la Bible, représente le monde. Le monde et ses impuretés. Le monde et ses abominations, etc., etc. Et lorsque Dieu se lia avec le peuple, le peuple qui est de la génération de Moïse, Dieu fit une alliance avec eux. Mais Il y a un épisode dans la Bible en général que l'on passe très rapidement parce que pour la plupart du temps on ne comprend pas cet épisode-là, qui nous montre à quel point la circoncision est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de l'alliance que Dieu a avec son peuple. Dieu avait une alliance avec le peuple juif et il avait demandé au peuple juif de se circoncire. Donc tout juif, tout israélite devait toujours se circoncire. Est-ce qu'on me suit? Tout juif devait toujours se circoncire. Et Dieu se révèle, Dieu entend les cris du peuple d'Israël et Dieu se révèle à un homme qu'on appelle Moïse et dit, tu vas aller délivrer mon peuple, d'accord? Moïse dit, ok Dieu, je vais aller délivrer ton peuple. La nuit d'après, Moïse prend sa femme et son enfant et s'apprête à partir en Égypte. La Bible dit en chemin, voici ce que la Bible nous dit. Pourtant, il a reçu une instruction de Dieu. Exode 4, verset 24, nous dit, pendant le voyage, une nuit à l'étape, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Aussitôt, Séphora, c'est-à-dire sa femme, prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse en lui disant, « Ainsi, tu es pour moi un époux de sang. » Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Ça, c'est un passage que la plupart des enfants de Dieu ne comprennent pas. Comment Dieu vient se révéler à Moïse? Lui dit, va délivrer le peuple d'Israël, et la nuit d'après, il veut le tuer. Et Séphora, qui a eu la révélation du Saint-Esprit que, en fait, Dieu veut tuer Moïse parce qu'il n'est pas circoncis, ton fils aussi, elle prend le couteau, elle circoncit son fils illico presto, et puis elle va, et elle prend le prépuce, et elle colle ça au sexe de son mari. C'est des passages, en général, quand on lit ça dans la Bible, on dit, mais... Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à cet endroit-là, en fait? Mais c'est des passages très importants. C'est des passages très importants. Alléluia. C'est des passages très importants. Et elle prend le prépuce et elle colle ça au sexe de son mari. Elle colle ça au sexe de son mari. Et quand elle le colle au sexe de son mari, Dieu s'éloigne de Moïse. En fait, Dieu était en train de passer un message ici à Moïse. Dieu était en train de dire à Moïse que bien que j'ai t'ai donné une instruction d'aller délivrer mon peuple, l'alliance là, tu n'es pas en accord avec ça. Je suis obligé de te tuer. Dieu est saint, Dieu est juste. Et quand Dieu a une alliance avec quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est une personne que lui-même il a appelée, lorsque cette personne viole l'alliance, Dieu lui-même est obligé de sévir sur cette personne-là. Amen. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé ici. Parce que tout simplement, l'alliance n'avait pas été respectée. Donc, Dieu nous fait comprendre ici que la circoncision est une étape très, très, très importante par rapport à son alliance. Et pourquoi Dieu dit à Josué, circoncis le peuple? Parce que tout simplement, la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération de Josué, n'était pas circoncis. La génération de Josué était une génération très particulière. C'est une génération qui n'avait pas connu l'Égypte. C'est une génération qui était née dans le désert. Et parce que cette génération était née dans le désert, ils n'avaient pas connu, comment dire, toutes les lois, les règles que Dieu avait instruit le peuple en Égypte. ils avaient reçu, parce que souvenons-nous que le peuple était resté dans le désert pendant 40 ans. Et donc, ils avaient reçu les instructions venant de leur père, et leur grand-père, et leur arrière-grand-père. Donc, en général, plus le temps passait, plus les années passaient, et plus les instructions reçues, en général, le peuple avait tendance à les oublier. Donc, le peuple avait laissé entrer au milieu de toutes sortes de choses mondaines. Ce n'étaient pas toujours des gens consacrés. S'ils étaient consacrés, Dieu n'aurait pas donné l'instruction « consacrez-vous ». Et s'ils étaient circoncis, Dieu n'aurait pas dit « circoncisez-vous ». Donc, la circoncision était une étape importante que Dieu voulait rappeler à Josué. Donc, ils ont pris le temps de se couper les prépuces. Mais la circoncision ici, au niveau de la Bible, certes, ils coupaient le prépuce, mais nous, dans la parole de Dieu, la Bible nous montre que la circoncision, elle est spirituelle. Amen. Elle est spirituelle. Donc, la Bible dit au verset 8 que « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, c'est-à-dire qui veut dire « rouler jusqu'à ce jour ». Les Israélites étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient laissé beaucoup de pratiques égyptiennes grandir au milieu d'eux. » Donc, dans la saison de la conquête des promesses, parce que c'est ce dont nous sommes en train de parler, cette année, cette saison, tu es appelé à faire des choses. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir pour toi. Il y a des choses que tu dois expérimenter cette année. Mais les portes ne s'ouvriront pas comme ça. Tu ne réussiras pas comme ça. Il y a des conditions. La première condition, c'est la consécration. La deuxième condition, c'est la circoncision. De quelle circoncision Dieu parle ici? Au regard de l'alliance en Christ que nous avons en Jésus-Christ, la circoncision n'est pas celle de la chair. La circoncision est celle du cœur. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi la circoncision du cœur? Ne pas se circoncire veut dire, dit la parole, ne pas se conformer à Christ, mais au monde, et ne pas abandonner certaines impuretés dans notre vie. Si tu veux réussir avec Dieu, il y a certaines choses du monde, certaines impuretés que tu as encore dans ta vie que tu vas devoir enlever. Parce que je le répète, que Dieu ne se manifeste pas dans le péché. Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Dieu est plus que tout le péché. Et même si Dieu veut ton bonheur, comme tout père qui veut le bonheur de son enfant, s'il y a péché, Dieu dit ça là, je ne rentre pas dedans. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. La première chose qui caractérise Dieu, c'est qu'il est saint. C'est pour cela que quand on demande à Jésus, comment est-ce qu'on doit prier, Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, tu es saint, ou encore que ton nom soit sanctifié. Parce que tu es saint. Donc Dieu est saint et le péché n'a pas d'égal avec lui. Amen. Donc, s'éloigner ou encore ôter, ou encore se circoncire, veut simplement dire ôter toute forme d'impureté dans sa vie qui t'empêcherait, qui pourrait être des obstacles pour toi pour prospérer dans la saison de la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi la conquête des promesses? Oh oui, à la conquête des promesses. Et Dieu leur faisait déjà comprendre ça. Au moment où Moïse était en train de mourir, Dieu était déjà en train de dire au peuple, était déjà en train de prévenir le peuple que cette histoire de circoncision-là, vous allez devoir prendre ça très au sérieux. Deutéronome 30 au verset 6, juste avant que Josué entre en action en termes de leadership. Moïse est en train de donner ses dernières instructions et en fait, c'est Dieu qui parlait. Deutéronome 36 dit, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » La circoncision symbolise la conformité à Christ et l'abandon à des préceptes du monde. Et Paul avait rencontré ce problème dans l'église. Parce que la plupart des gens qui venaient à l'église venaient de dehors et ramenaient tout un tas de choses de l'extérieur. Et c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils donnent leur vie à Jésus, mais ils ne comprennent pas que l'acte qu'ils ont posé lorsqu'ils sont venus en Christ, c'est que leur vie ne leur appartient plus. Leur vie ne leur appartient plus. Elle appartient à Christ. Mais ils n'ont pas compris cela. Et même pour certains, lorsqu'ils le comprennent, ils refusent de l'accepter et viennent dans l'église, viennent à Christ, viennent dans le Seigneur avec tout un tas de choses que Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu dit que, fils, ma fille, si tu veux réussir avec moi, tu vas devoir te circoncire, c'est-à-dire tu vas devoir ôter le prépuce. Tu vas devoir ôter toutes sortes d'impuretés qui sont encore présentes dans ta vie. Et aujourd'hui, en ce début d'année, en ce début de saison que nous avons déjà pris, nous sommes maintenant en février, le mois de décembre arrivera très vite. Ma prière, c'est que non seulement tu fasses le ménage au niveau de ta vie professionnelle, etc., au niveau de tes relations, mais je t'assure, au niveau de ta vie personnelle, au niveau de ton corps, au niveau de ta relation avec Dieu, fais le ménage et enlève toute forme d'impureté. Parce que Dieu aujourd'hui nous parle clairement au travers de sa parole en nous faisant comprendre que l'impureté, je ne blague pas avec et je ne me glorifie pas dans l'impureté et tu dois enlever ça. Et si tu t'attends à ce que Dieu se manifeste dans ta vie alors qu'il y a des impuretés dans ta vie, tu te fais des illusions. Même si je le dis comme ça, mais on se fait des illusions. Quand on croit que Dieu va nous accorder, Dieu va nous faire grâce, ou Dieu va nous accorder sa faveur dans notre vie, alors qu'il y a des impuretés dans notre vie. C'est faux. C'est complètement faux. Circoncision, est-ce qu'on peut dire avec moi la circoncision? Oui, la circoncision. La circoncision du prépuce symbolise la coupure de ce qui est impur en nous. Donc le fait de couper le prépuce, le fait de ôter l'impureté signifie simplement accepter d'abandonner toute forme de vie mondaine, toute forme de vie, toute forme d'habitude, toute forme de choses qui sont présentes dans notre vie et qu'on refuse de laisser tomber. Et Dieu dit que tu es sur le point de traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain veut dire expérimenter le baptême, c'est-à-dire une intimité profonde avec le Saint-Esprit durant laquelle il va t'équiper. Il va t'équiper de la connaissance, de l'excellence, etc. Tout ce qu'on a dit pour pouvoir aller réussir, conquérir en Canaan. Mais pour ça, tu vas devoir enlever toutes ces choses-là qui vont faire obstacle dans ta vie et qui peuvent t'empêcher de réussir. La circoncision du cœur est le signe de notre foi en Dieu qu'il accomplira les promesses qu'il a faites à notre sujet. Dieu a fait des promesses qui sont contenus dans l'Alliance. Dieu a fait des promesses pour toi et pour moi. Et le fait de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte de me circoncire. J'accepte la circoncision du cœur. J'accepte de renoncer à moi-même. J'accepte de laisser tomber certaines relations. J'accepte de laisser tomber certaines impuretés. C'est un pas de foi que tu fais en te disant, je suis sûr, Seigneur, que ce que tu as promis à mon sujet, tu le feras. Quel que soit le domaine, tu le feras. Tu le feras. Dans la saison de la conquête des promesses, voici la parole que Dieu, le Saint-Esprit, continuera et ne cessera jamais de souffler à ton oreille tout au long de cette année. Souviens-toi toujours de cette parole. C'est la parole que Christ a prononcée à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est comme un cri de guerre. C'est-à-dire, chaque fois que tu progresseras cette année, dis-toi que parce que Christ a dit « tout est accompli », alors les promesses me concernant sont disponibles. Je vais devoir me battre, je vais devoir les accepter et je vais devoir travailler pour que ces promesses voient le jour. Mais une chose est sûre, ne remets jamais en doute la parole de Christ par rapport à ces promesses-là. Parce que Christ dit que quel que soit le domaine dans ta vie, quel que soit ce que Dieu a promis, il va le faire. Si tu crois, si tu as la foi. Rappelons-nous d'Abraham. Dans le livre de Romains au chapitre 4 au verset 20, il est écrit ceci. Il, en parlant d'Abraham, il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain. La version Louis II dit, il avait la pleine conviction que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voici l'attitude qu'on doit avoir. Avoir la pleine conviction. Mais combien de fois on remet en doute la parole de Dieu? Combien de fois on se décourage? Combien de fois on abandonne la foi? Combien de fois on retourne en arrière, on rétrograde? Alors que Dieu nous dit, voici l'attitude que tu dois avoir en Canaan. Voici l'attitude que tu dois avoir en la saison de la conquête des promesses. Tu dois avoir la pleine conviction que tout est accompli et que tout ce que Dieu a dit à ton sujet, toutes les promesses qui sont contenues dans la parole, Il va les accomplir. Voici comment un enfant de Dieu doit marcher. Même lorsque les circonstances remettent en doute ses paroles. Et ça arrivera. Parce que, comme j'aime souvent dire, ta foi sera testée. La foi sera testée. Le mot tenté, quand la Bible dit nous sommes tentés, ou bien aucune tentation n'est survenue dans notre vie qui n'ait été au-dessus de nous-mêmes. Aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tentation que tu verras venir dans ta vie qui soit plus forte que toi. Tu auras toujours la capacité et la force de la surmonter. À chaque fois que tu vois le mot tenté dans la Bible, c'est un mot hébreu qui veut dire simplement tester. Tester. Ou bien comme quand tu fais un contrôle à l'école. Chaque fois que Dieu veut t'emmener à une nouvelle dimension dans ta vie, il va toujours te tester. Il va toujours permettre que ta foi soit tentée, soit mise à l'épreuve. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes. Mais je t'assure, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu surmontes. Parce que tout simplement, ta foi doit être testée. Ta foi doit être testée. Il n'y a aucune victoire sans bataille. Il n'y a aucune victoire sans bataille. Il faut d'abord que tu te battes. Il faut d'abord que ta foi soit testée. Et quand tu passes le test, ta foi, elle passe à un autre niveau. Amen. Elle passe à un autre niveau. Donc, ne doute pas, crois. Travaille et attends-toi à ce que Dieu se glorifie dans ta vie. Quelle que soit la promesse, elle s'accomplira en cette année au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu es malade, que ta guérison soit effective au nom de Jésus. Tu es stérile, cette année tu seras féconde et tu enfanteras. Comme dit la Bible, il fait de la stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Tu n'as pas de travail, cette année tu connaîtras un miracle professionnel au nom de Jésus. Tu as des problèmes financiers, cette année tu expérimenteras une percée financière au nom de Jésus. Tu attends une promotion en ce moment, cette année la faveur divine frappera à ta porte et Dieu t'élèvera au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce sont des promesses. Les promesses qui sont contenues dans la Bible touchent tous les domaines de notre vie. En cette saison de la conquête des promesses, la circoncision de ton cœur doit symboliser un renoncement aux œuvres de la chair et ton engagement à suivre Christ par la foi. Parce que les œuvres de la chair, l'impureté, est un obstacle redoutable à ta progression. Et c'est ce que Paul nous rappelle. Paul nous le rappelle tout le temps. Paul dit ne blaguez pas avec l'impureté. Ne blaguez pas avec l'impudicité. Et l'Église, en tout cas je ne sais pas pour les autres, mais la maison du bâtisseur, l'impureté, je vous assure, on ne passera pas à côté. Parce qu'on s'aime dans le Seigneur. Et quand tu vois quelqu'un qui a du potentiel, qui a du talent, mais tu vois qu'il vit dans l'impureté, il faut lui dire que ça là, si tu n'enlèves pas ça, si tu n'ôtes pas le prépuce, si tu ne coupes pas le lien, je t'assure, ne t'attends pas à ce que Dieu se glorifie dans ta vie. Ça, c'est clair. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit ceci. C'est un passage très important dans la Bible que je veux prendre le temps de nous dire. 1 Corinthiens 6, 17 au verset 20 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit et toi, vous êtes devenus une seule et même personne. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ensuite, il dit « Fuyez l'impudicité. » Il ne dit pas « Prier pour l'impudicité. » Il ne dit pas « Négocier avec l'impudicité. » Il ne dit pas « Soyez tolérant avec l'impudicité et l'impureté. » Il dit « Fuyez l'impudicité. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. La version parole vivante, j'insiste, elle nous dit ceci. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi fuyez le dévergondage ou encore l'immoralité et les unions illégitimes. Tout autre péché qu'un homme peut commettre ne touche pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus maître de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Amen. Très important. L'impudicité, l'impureté. Et Dieu demande à ceux qu'on coupe ça. La circoncision. C'est pour cela que Dieu prend le temps de dire à Jésus, dis à ton peuple, ils doivent se consacrer, deux, ils doivent se circoncire. Parce qu'en Canaan là-bas, le diable ne leur fera pas de cadeau. Et quand le diable vient se manifester devant toi, tout comme il est venu se présenter à Christ, s'il y a quelque chose de lui en toi, il va entrer. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean que Jésus-Christ dit cette parole, je ne sais plus dans quel chapitre, Jésus-Christ dit, le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire que parce qu'il n'a rien en moi, il ne peut pas me toucher. Il peut tourner. Comme dit 1 Pierre, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'il cherche qui dévorer, il rôde, mais il ne peut pas entrer. Mais dès qu'il y a péché, il entre. C'est pour cela que le diable cherchera toujours à t'amener au péché ou encore à la désobéissance. Parce qu'il sait que ceux qui sont intimes avec Dieu, les amis intimes de Dieu, le diable ne peut pas les toucher. Satan ne peut pas toucher les amis intimes de Dieu. Dieu les protège. Ceux qui sont intimes avec Dieu, ce sont les personnes les plus dangereuses. C'est pour cela qu'il y a deux semaines, on a parlé de l'intimité avec le Saint-Esprit, l'arme la plus puissante pour réussir à la conquête des promesses. Ceux qui sont intimes, ceux qui restent dans la présence de Dieu, ceux qui cultivent, ceux qui posent les genoux par terre tous les soirs, ce sont des gens dangereux. Hein? Les gens qui sont dangereux dans la prière, ce sont les gens qui posent les genoux. Ah, je vous assure. Quelqu'un qui pose les genoux tous les soirs chez lui à la maison, quand il prie, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de très dangereux. Les gens qui sont intimes. C'est pour cela que Moïse était quelqu'un de très puissant. C'est quelqu'un qui voyait Dieu face à face. Il suffit juste que sa petite sœur, Myriam, et son petit frère Aaron ont osé le critiquer parce qu'il est parti prendre une femme étrangère. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de les frapper. Dieu a dit, mais vous ne savez pas que Moïse, je parle avec lui sans énigme. Il voit une représentation de Dieu. C'est un intime. Il me connaît par mon nom. Et puis vous osez le critiquer? C'est pour cela que j'aime souvent dire, il ne faut jamais oser critiquer un intime de Dieu. Il ne faut jamais oser insulter un intime de Dieu. À plus forte raison si c'est un serviteur de Dieu. Il faut faire très attention. Parce que tout simplement, ces gens-là ont une place très particulière au cœur de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous de David. David, dans toute la Bible, c'est celui qui a fait les péchés les plus graves. Mais Dieu ne l'a jamais frappé. Pourquoi Dieu ne l'a jamais frappé? Oh, mais vous, un jour j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi tu ne frappes pas David? David a commis le péché d'adultère. David, non seulement il commet le péché d'adultère, mais il prend le mari de la pauvre femme et il l'assassine. Quoi? Mais la Bible nous montre que d'autres personnes qui ont fait ça, Dieu les frappait. Mais lui, Dieu le laisse. Il fait son histoire de il se couche par terre pendant 3 jours, il supplie Dieu. Dieu préfère tuer l'enfant que de le tuer lui. David, ce qu'il fit, il appelle dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. La Bible dit, un matin, Satan excita David. C'est écrit dans la Bible, hein? Chapitre 24, verset 1, 2 Samuel. Un matin, Satan excita David, virgule. David appela le chef de son armée, Joab, et lui dit, fais le dénombrement du peuple. Et Joab, le chef de l'armée, répondit à David, Seigneur, pourquoi commettrons-nous un si grand péché aux yeux de notre Seigneur? Virgule. David se mit en colère et dit à Joab, fais le dénombrement du peuple. Et Joab, sachant que c'était un grand péché, en cachette, alla faire le dénombrement juste de quelques tribus et ne fit pas le dénombrement de Juda et de Lévite pour ne pas révéler le véritable nombre d'Israël à leurs ennemis. Nathan vint et dit à David, tu as péché. Ne sais-tu pas que faire le dénombrement du peuple, c'est le plus grand de tous les péchés? Choisis entre la peste, la famine ou bien tomber entre les mains de tes ennemis. Et David dit, je ne tomberai pas entre les mains de mes ennemis, je choisis la peste. Est-ce qu'on me suit? Et David marcha avec des sacs de cendre et les anciens dans la ville. Et là, il leva la tête et vit un ange avec une épée braquée sur Jérusalem. Et la Bible dit qu'en deux jours, il y eut plus de 20 000 personnes qui moururent. Et David se mit à crier, « Seigneur, pourquoi frappes-tu les brebis? C'est moi qui ai péché. » Et là, Dieu dit à l'ange, « C'en est assez, retire ton épée. » Vous ne connaissez pas ces passages-là? C'est écrit dans la Bible, ça, ces passages-là. Dieu, au lieu de frapper David, il frappe le peuple. Mais le peuple a fait quoi? Le peuple n'a rien fait. C'est lui qui est parti faire son délan au moment de son adultère. Pourquoi on frappe le peuple? Parce que tout simplement, Dieu dit à David, « Mais c'est toi qui es intime avec moi. » Ce que tu me dis dans l'intimité là, si je te tue, qui va me dire ça? Ce que tu me fais dans l'intimité, le bien que tu me fais là, il n'y a personne comme toi sur la terre, David. Je ne peux pas te tuer. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es un intime. Si je te tue, David, qui va me faire ce que j'attends? Je préfère frapper 20 000 personnes que de te tuer toi. Dieu préfère tuer d'autres personnes que de tuer les intimes. Un intime, Dieu est patient avec les intimes. Dieu attend longtemps que l'intime se repente parce qu'il sait que cet intime-là, si je l'enlève de la terre là, je vais pouvoir trouver quelqu'un d'autre comme lui où? Amen. Gloire à Dieu, on avance. Donc, les intimes de Dieu sont des gens très, très importants. Et l'impudicité, l'impureté, Dieu la condamne fermement. Si tu te gardes pur, Dieu te protégera et ne permettra pas que le malheur frappe à ta porte durant la conquête des promesses. Garde-toi pur, reste pur, parce que Satan viendra et voudra enlever cette pureté-là. Salomon a dit dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si la source de la vie est corrompue, ou bien souillé. Tout ce qui sortira de toi sera souillé. » Jésus-Christ a dit, les meurtres, les adultères, les mensonges, les pires crimes qui peuvent exister ne viennent pas de ce qu'on mange, de ce qui entre dans le ventre, mais ils viennent du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les plus grandes méchancetés que l'homme peut faire à son prochain. Le cœur. Et Dieu sait que si le cœur est corrompu, tout est corrompu, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et cette année, cette saison, le diable, la seule chose qu'il voudra atteindre, c'est ton cœur. Si le diable arrive à atteindre ton cœur et que ton cœur t'endurcit, il arrive à toucher ta relation avec Dieu, mais il arrive aussi à te toucher toi. Et si le diable arrive à atteindre ce qu'on appelle ton corps, c'est très dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que le corps, pourquoi Dieu dit le corps est le temple du Saint-Esprit et pourquoi de toutes les attaques que le diable lancera pendant la conquête des promesses, ce seront toujours des attaques qui seront ciblées contre ton corps parce que le corps est ce qui te garantit une légalité sur la terre. Rappelez-vous toujours une chose, spirituellement parlant, il y a une loi dans la Bible qui dit que Dieu a établi, qui dit que aucun être spirituel ne peut opérer sur la terre s'il n'a pas un corps. Aucun. C'est pour cela que les mauvais esprits voudront toujours entrer dans le corps de quelqu'un pour pouvoir agir. Vous vous rappelez pas de l'épisode où Jésus-Christ vient voir le démon de Gadara et Jésus-Christ veut chasser le démon et il se rend compte que c'est difficile. Et Jésus-Christ demande au démon de Gadara, mais comment t'appelles-tu? Et il dit, nous nous appelons Légion parce que nous sommes plusieurs. Et la Bible dit que les démons, appelés Légion, supplièrent Jésus de les laisser partir dans les ports qui étaient à côté. Et la Bible dit que Jésus le leur permit. Au moment où les esprits quittèrent le corps de cet homme, ils entrèrent dans les ports, dans le troupeau de porcs. Et dès ce moment, on ne comprend pas pourquoi le troupeau de porcs alla se jeter par-dessus la falaise pour mourir. Un jour, je demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi les porcs vont se jeter dans la falaise? Parce que les porcs, ils étaient en train d'assister à la scène. Et ils voyaient comment les démons étaient en train de négocier avec Jésus leur sortie. Et Jésus leur accorde de venir chez eux. Ils disent, quoi? C'est chez nous que tu les envoies. On préfère mourir que de vivre avec des démons. Et c'est pour ça que les porcs vont se jeter par-dessus la falaise. Parce que les porcs ont une conscience aussi. Ils assistent à la scène et ils disent, non Dieu, là tu n'es pas gentil. Comment tu les envoies chez nous? Et là ils disent, il ne faut pas que ces gars-là continuent à opérer sur la terre. On préfère mourir. Et les porcs vont se jeter par-dessus la falaise. Voilà pourquoi ils se jetaient par-dessus la falaise. Ni plus ni moins. On lit ces passages, mais on ne comprend pas pourquoi. C'est juste à cause de ça. Parce que les mauvais esprits ne peuvent pas opérer. Si l'esprit ne peut pas opérer dans le corps humain, il va aller dans le corps d'un animal. S'il ne peut pas opérer dans le corps d'un animal, il va rentrer dans un objet. Parce que l'esprit est spirituel et il a besoin d'un corps pour pouvoir agir sur terre. Et Satan sait ça. Satan sait que s'il arrive à détruire ton corps, il sait que tu deviens illégal sur terre. Il sait que tu as obligation de repartir chez ton créateur. C'est pour cela que Dieu dit, ton corps, là, fais attention. Et c'est pour cela que Dieu a établi un programme dans l'église qu'il appelle les programmes de guérison. Et les gens, quand ils demandent à Dieu de les guérir, ils aiment supplier. Oh Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il ne faut pas supplier Dieu. Il faut saisir la parole. Il faut saisir la promesse. Il faut saisir cette loi-là qui dit que sans mon corps, Dieu, tu ne peux pas agir. Tu as besoin de mon corps. Seigneur, guéris-moi. Parce que si je suis malade, tu ne peux pas travailler. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Parce que si tu es malade, Dieu sait qu'il ne peut pas t'utiliser. Et c'est pour cela que lorsque tu te tiens dans la prière de guérison, tu dis, Dieu, je te rends grâce pour ma guérison parce que tu as besoin de mon corps pour pouvoir opérer sur la terre. Amen. Oui, tel est l'objet de la guérison. Et Dieu sait ça. Dieu sait ça. Dieu a besoin de ton corps. Et aujourd'hui, j'ai envie de finir en disant ceci, que le bonheur, la grâce, la paix et la réussite t'accompagneront, te garderont tout au long de cette année si tu restes circoncis, si tu circoncis ton cœur et si tu te gardes pur. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 nous dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de l'impureté. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Donc, fuis les passions de la jeunesse, il dit dans le verset suivant, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La pureté, c'est l'arme la plus puissante pour pouvoir réussir avec le Seigneur. Garde-toi pur. Le meilleur est à venir pour toi et moi en cette année. Attends-toi à de grandes choses. Attends-toi à faire des exploits. Quand vous sortez d'ici et que vous allez dehors opérer, que ce soit pour bâtir des entreprises, que ce soit pour réussir au travail, que ce soit pour bâtir votre foyer, que ce soit pour faire l'éducation de vos enfants, quel que ce soit ce que vous allez faire dehors, attendez-vous à ce que Dieu vous fasse grâce et que Dieu manifeste sa faveur dans votre vie. Parce que Dieu l'a promis et Dieu s'est engagé au travers de cette alliance pour ça. Et un enfant de Dieu est quelqu'un qui marche avec assurance et qui sait que les promesses de Dieu sont pour lui. C'est pour cela qu'il se garde pur. C'est pour cela que lorsque la tentation vient se présenter à toi, c'est pour cela que lorsque Satan vient se présenter à toi, tu dis « Satan, tu es vaincu. Je suis pur. Je suis en Christ. Je suis né de nouveau. » La gloire de l'Éternel, comme dit David dans le livre de Psaumes, elle m'environne comme d'un bouclier. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache à tout danger. Oui, il l'arrache à tout danger. Et on va finir avec ceci. Non, on va finir avec ça. Et l'arrache à tout danger. On va se lever pour ceux qui peuvent, pour prier. Ceux qui ne peuvent pas, pour rester assis, on incline la tête. Garde-toi pur. La Bible nous dit que dans Éphésiens 2:10, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi maintenant. Maintenant. en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. C'est-à-dire, vous êtes maintenant dans l'intimité avec Dieu par le sang de Christ. Chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons accès à cette intimité-là. Et chacun d'entre nous, avec Dieu, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous sommes appelés à expérimenter des exploits. Quelle que soit la montagne qui se tient devant toi aujourd'hui, quels que soient les obstacles qui se dressent devant toi, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, sache que c'est juste ta foi qui est en train d'être testée. Et Dieu attend de toi que tu lèves la tête et que tu prennes possession des promesses et de ton héritage en Christ et que tu surmontes ces épreuves, que tu surmontes cette montagne afin d'opérer à une nouvelle dimension. Cette année 2014, Dieu veut que tu opères à une nouvelle dimension. Dieu veut que tu opères à un autre niveau. Dieu veut que tu expérimentes des grâces et des faveurs que tu n'as jamais connues auparavant. Que ce soit au niveau personnel, au niveau de ton foyer, au niveau de tes finances, au niveau professionnel, au niveau de tes entreprises. La guérison, si tu es malade, peu importe, Dieu veut que tu guérisses parce que Dieu a besoin de toi et de ton corps pour pouvoir opérer sur la terre. Alors lève-toi, accepte et saisis ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je veux qu'on élève la voix et qu'on prie et que tu rendes grâce à Dieu pour toutes les promesses de Dieu qu'il a citées à ton sujet, qui sont contenues dans l'Alliance et que tu dis simplement au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, parce que tu as dit en Jésus-Christ, j'ai été rapproché en Jésus-Christ, je suis dans l'intimité, alors merci pour l'accomplissement de ces promesses en cette année au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. À toi soit la louange et l'adoration. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui vient et qui illumine les yeux de nos cœurs. Père, merci pour toutes les promesses qui sont contenues dans l'Alliance. Merci pour toutes les promesses, Seigneur, que tu as citées, Seigneur, à mon sujet, à notre sujet, Seigneur, et que tu as contenues dans l'Alliance. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu t'es engagé, Seigneur, au travers de cette alliance, à, Seigneur, concrétiser ces promesses, Seigneur, dans nos vies. Je te dis merci pour nous. Je te dis merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour moi-même. Parce que le temps viendra, et il est déjà venu, où nous nous tiendrons devant toi, où nous nous tiendrons devant ton peuple, et nous témoignerons de ta bonté et de ta fidélité, Seigneur, à notre rencontre, Père de grâce. Assurément, tu ne veux pas que nous échouions. Assurément, tu ne veux pas, Seigneur, que nous rations, Seigneur, le coche, mais tu veux que nous puissions entrer, Seigneur, sur la terre promise et prendre possession de notre héritage en Christ. Seigneur, merci pour Canaan. Merci pour la terre promise en Canaan. Merci, Père, parce qu'en Canaan, Seigneur, les promesses sont nôtres. Merci parce qu'en Canaan, Seigneur, le bonheur, la grâce, la paix, Seigneur, et la réussite, Seigneur, nous accompagneront tous les jours de notre vie, Père de grâce. Nous te disons merci pour la circoncision du cœur. Merci, Seigneur, pour la pureté. Merci parce que tu nous accordes la grâce de faire le ménage dans notre vie et d'enlever toute forme d'impureté dans notre vie, Seigneur. Nous bannissons, Seigneur, et nous éradiquons, Seigneur, dans nos vies toute forme d'impudicité, toute forme d'immoralité, toute forme de péché, Seigneur, qui fait obstacle, Seigneur, à notre croissance en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit, Seigneur, qui se tient dans la vie de mon frère et de ma sœur et qui veut le maintenir en esclavage. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'aucun esprit impur, Seigneur, ne continue à siéger dans la vie, Seigneur, d'un de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu leur accordes à chacun d'entre eux la grâce, Père, de marcher dans la pureté, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sanctification. Car tu as dit dans ta parole que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Merci parce que la sanctification est notre partage à tous égards. Seigneur, nous sommes au mois de février et le 31 décembre verra le jour, Seigneur. Et même le reste de notre vie, Seigneur, il verra le jour et nous trouvera pur, Seigneur. Fidèle et intègre devant toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la manifestation et la concrétisation des promesses, Seigneur. Merci pour les promesses de prospérité, pour les promesses de guérison, pour les promesses de fécondité, pour les promesses de faveur, promesses de paix, promesses d'exploit dans les affaires, promesses, Seigneur, de prospérité dans notre foyer, promesses de fécondité, Seigneur, au niveau de nos enfants. Seigneur, la stérile, Seigneur, se tiendra bientôt devant nous et dira, Seigneur, merci parce que tu m'as rendu fertile au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les exploits que tu nous appelles à faire en cette nouvelle année parce que tu nous appelles des conquérants. Tu nous appelles, Seigneur, des plus que vainqueurs et tu nous appelles, Seigneur, à accomplir de grandes choses avec toi. Alors nous te disons merci et nous nous réjouissons d'avance, Père, pour tout ce que tu as commencé à faire dans nos vies et que tu rendras parfaite. Accorde-nous la grâce de toujours regarder, Seigneur, à ce qui est invisible. Car tu dis, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et nous regardons à celui qui est l'éternel même, le Dieu des armées, notre roi et notre Seigneur, Christ Seigneur. Et à lui, nous rendons la gloire et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un véritable adorateur peut simplement acclamer le Seigneur et dire merci? Merci Père. À toi soit la louange, Seigneur. À toi soit toute l'adoration pour tout ce que tu es. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi la conquête des promesses? Gloire à Dieu.
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.